Pour vous, qu'est-ce que l'homophobie?
Alors, il n'y a pas que pour moi. On va faire une définition de l'homophobie en général. L'homophobie en général, c'est une discrimination qui permet d'écarter, alors soit verbalement, physiquement, une personne qui est différente. Homophobie, homo pour personne de même sexe, pour la, par rapport aux relations, et la phobie, c'est la peur. Voilà. On a toujours la peur de quelqu'un qui est différent. Et c'est là où on part sur une discrimination. Alors, il y a beaucoup de discriminations qui existent. Hein. Il y a le sexisme, le racisme, l'handiphobie. Handiphobie, donc pour les personnes handicapées, ou envers les personnes handicapées. On trouve plus d'une vingtaine de discriminations qu'il y a en général.
Alors, juste, moi, j'ai une question quand même. Parce que tu as dit les personnes qui sont différentes, enfin, homo, parce qu'elles ont des relations sexuelles avec des personnes du même sexe. Est-ce que, enfin, je comprends pas trop la différence. Est-ce qu'il y aurait pas plutôt une sorte de modèle hétérosexuel qui est imposé à la société et qui ferait que, ça, du coup, les personnes qui ne seraient pas hétérosexuelles seraient différentes? C'est un peu ça le problème, non?
Alors, à savoir qu'on a tous et toutes été dans chaque pays sur un modèle patriarcal, un modèle hétérosexuel. Et dès que les personnes étaient différentes, selon la religion, il y avait une difficulté derrière. Mais pas qu'un axe religieux, axe civil aussi. Donc, je parlais de couples de personnes de même sexe, mais même de personnes qui sont de sexe opposé, comme les personnes bisexuelles. Ça peut avoir une discrimination, les personnes transsexuelles, transgenres. Alors, transsexuelles, alors c'est bien que j'en parle tout à l'heure, on n'emploie jamais plus ce terme-là de transsexuel. À savoir que la transsexualité était un terme employé par des psychologues, surtout des psychiatres, envers les personnes trans, et pour eux, c'était des malades mentaux. Donc on s'est rendu compte au bout de nombreuses années que ce terme-là agressait les personnes trans et qu'il ne fallait surtout pas utiliser ce terme-là. Aujourd'hui, on emploie soit le terme transgenre, parce que c'est en lien avec le genre de la personne, ou trans, les personnes accepteront un peu plus. Et c'est vrai que c'est ce qu'on parle en formation, le terme transsexuel, on a banni ce terme-là.
Que pensez-vous des gens qui sont homophobes?
Qu'est-ce que j'en pense? Alors, surtout, l'homophobie, c'est une incompréhension des personnes. Et souvent, ils ne connaissent pas. Et ils ont une peur de des personnes différentes, sans savoir pourquoi les personnes sont différentes. Donc, pour moi, je pense qu'il faut déjà passer sur de l'éducation. C'est comprendre pourquoi les personnes sont différentes. Et accepter les personnes, selon la différence. De toute façon, on ne peut que s'enrichir à avoir des personnes qui sont différents et différentes, parce que ça permet d'avoir des échanges et avoir des informations qu'on n'a pas jusque-là. Quoi. Ça évite aussi des agressions physiques et verbales, ça évite aussi d'être mis de côté à chaque fois. De toute façon, on subit tous et toutes des discriminations, de par sa couleur de peau, on parlait tout à l'heure, de par sa taille. On le voit bien, depuis qu'on est tout petit, malheureusement, on est réglé là-dessus, que ce soit à l'école ou autre. Les gens, dès qu'ils sont un peu différents, de par la couleur de cheveux, de par la couleur des yeux, de par la manière dont ils sont habillés, de par les amis qui ou elles côtoient, de par qu'ils soient maigres ou gros. Tout ça, voilà, ça fait partie des discriminations. Et tout ça permet de mettre des gens à l'écart et de malmener les gens. Et ce n'est pas le plus facile. Le but, voilà, c'est quand on connaît les autres, quand on va vers les autres, quand on essaie de comprendre ce qu'est les autres, de faire un pas en avant, on peut avoir des échanges et discussions et on se rend compte que les gens sont tous les mêmes.
Qu'est-ce que vous pensez des gens qui cachent leur homophobie derrière la religion?
Alors ça, c'est une super question. Alors, c'est difficile aussi. Je peux comprendre que... on va se baser sur la religion en général. C'est, quelle que soit la religion, on exclut les personnes différentes. On a la capacité de comprendre pourquoi la religion en est arrivée à mettre de côté les personnes différentes, dont les personnes LGBT+, soit on continue dans ce monde-là, où on se dit, bah, tant pis, on continue à discriminer les personnes parce que la religion le dit. C'est pas facile. C'est pour ça aussi qu'on est là pour parler de discrimination. Nous, on a fait des débats qui s'appellent « Croyants et homo, est-ce possible ?» Ce qui a permis à des personnes catholiques, musulmanes, protestantes, de différentes religions qu'il pouvait y avoir. On était une vingtaine de personnes de religions différentes autour d'une table et on a pu aborder la religion en elle-même, les points forts de la religion, ce qui relie toutes les religions et ce qui peut être aussi à mettre de côté toutes les personnes. Et la plupart des personnes qui étaient autour de la table ne voulaient pas mettre de côté leur religion parce qu'ils étaient homosexuels ou LGBT+. C'est d'accepter d'être soi-même, d'accepter qu'on peut croire en quelqu'un, croire en un dieu, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit être mis de côté à ce moment-là.
Nous allons maintenant parler de l'histoire des discriminations envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, alliées et toutes les autres personnes discriminées en raison de leur genre et de leur appartenance à un sexe réel ou supposé et en raison de leur sexualité réelle ou supposée, c'est-à-dire les LGBT+. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer le terme LGBT+ ?
Donc LGBT pour lesbienne, gay, bisexuel, transgenre. Le plus, donc, c'est les personnes qui ne s'identifient pas dans les sigles LGBT. Alors on peut trouver les personnes pansexuelles, on peut trouver les personnes aromantiques, on peut trouver vraiment beaucoup de groupes de personnes qui ne s'identifient pas dans le sigle LGBT. Et le plus, c'est aussi pour mettre en avant les alliés, donc les personnes qui se battent tout le temps à nos côtés pour faire évoluer la société.
Pourriez-vous parler de l'histoire des discriminations envers les personnes LGBT+ ?
Oui, je peux en parler. Il y a tellement de choses à dire, mais on va pas non plus. On va simplifier aussi les choses. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses. On peut parler des Romains, parce que tout commence déjà chez les Romains, où l'homosexualité était tolérée. À savoir que certains chercheurs ont fait des études là-dessus. À savoir que quand des personnes allaient à la guerre, une personne hétérosexuelle qui voyait sa femme mourir par les ennemis, on sait très bien que, même nous, hein, quand on voit quelqu'un qui s'attaque à quelqu'un qui nous est proche, notre sang fait qu'un tour, on s'agace deux fois plus et on est deux fois plus violent. Et bien, à la guerre, c'était pareil. Ils se sont servis de ça, dont des personnes homosexuelles, dans les escadrons, à savoir que si une des deux personnes décédait, l'autre était enragée et allait deux fois plus à la guerre et tuer ceux qui étaient en face. Donc les Romains ont un peu utilisé le fait des personnes homosexuelles pour aller à la guerre. Après, on passe au 6e siècle et là on vient sur un crime au niveau de la société où il y a la peine de mort qui est infligée aux homosexuels. À partir de Louis XV, donc vers 1710-1774, c'est le règne de Louis XV, l'homosexualité est un peu mieux considérée, c'est un peu moins violent, mais on est toujours sur un problème de mœurs qui évolue, mais ça reste toujours un crime. Donc on avance quand même sur à descendre l'homophobie qu'il pouvait y avoir, à faire en sorte que ça s'atténue un petit peu. Les dernières personnes qui ont été mortes en France par rapport au crime d'homosexualité, ça a été en 1750 à Paris. C'était vraiment les deux dernières personnes qui ont été tuées à cause de ça. 1791, c'est le nouveau code pénal qui abandonne le crime de sodomie entre deux personnes consentantes. Mais c'est pas pour ça que la loi reconnaît les homosexuels. Et il y a toujours une discrimination par rapport à ces personnes-là. Il y a le régime de Vichy, savoir que le régime de Vichy, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, donc de 1940 à 1944. Les sanctions sont plus violentes sous le régime de Vichy. Ça veut dire que il y a le maréchal Pétain qui est là, et sous ces ordonnances-là, la police fournit des listings de personnes homosexuelles pour donner aux nazis. Donc là, où on va à faire de la collaboration et on met, comme il y a eu pour les personnes juives, comme pour les personnes musulmanes, comme pour les femmes, comme pour beaucoup de personnes, on va donner toutes les coordonnées aux opposants pour les embarquer. Même s'il y a la libération en 1945, même si les lois Pétain sont abrogées, il va falloir attendre 2005 pour qu'on évoque réellement la déportation homosexuelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu du temps et de l'énergie. À savoir qu'il a fallu attendre 1981 pour que tous les listings relatant les noms des homosexuels soient enfin détruits. Il a fallu que ça soit Mitterrand qui fasse en sorte que. On a de la chance que sous Mitterrand aussi, on avait son garde des Sceaux, qui est Robert Badinter, auquel ils ont beaucoup travaillé. Donc 81, on commence à travailler sur la liste des maladies mentales, parce que l'homosexualité est considérée comme des personnes des maladies mentaux. On les supprimé en 82 par Robert Badinter. En 90, c'est l'OMS, l'Organisme Mondial de la Santé, qui enlève les maladies mentales des lois. 98, 99, donc 98, on commence à travailler sur le PACS. C'est un pacte civil pour les personnes qui souhaitent vivre ensemble. À savoir, c'était une grande nouveauté en 98. Deux personnes de même sexe qui vivaient ensemble n'avaient pas de droit. Ça veut dire que si pendant 30 ans ils vivaient ensemble, ils avaient acheté leur appartement ou leur maison, ils achetaient des biens. S'il y en a un des deux qui mourait, l'autre n'avait pas le droit au bien. Il était mis à la porte par l'autre famille. Ils n'étaient jamais acceptés. Et donc, ça veut dire que la personne perdait tout l'ensemble. Il n'y avait pas de pension de réversion. La pension de réversion, c'est quand l'un des deux du couple meurt, on reçoit une somme. C'est une pension par rapport aux personnes qui ont travaillé et tout, qui permet d'aider la personne qui reste. Donc, tout ça, ça n'existait pas pour les personnes homosexuelles. Ça existait pour les personnes hétérosexuelles, mais pas pour les homosexuels. Il a fallu attendre 1998 qu'enfin cette loi du PACS soit votée, acceptée, qu'en fin de compte, pour hétéro-homo, ça soit les mêmes combats, les mêmes droits. 2013, la loi sur le mariage. Pendant quelques années, on s'est battu sur l'avancée des droits pour que tout le monde ait les mêmes droits au niveau de la société. Donc 2013, on a réussi à obtenir enfin des droits. Des lois qui avancent, même si elles n'étaient pas complètes, mais le but c'était d'avancer sur des droits et que tout le monde soit sur le même piédestal. Alors on parle de discrimination aussi, et on va revenir là-dessus. Pourquoi il y a une discrimination? C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Et du fait qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, ils pensent qu'ils ont le droit de rabaisser les gens. Et c'est ça ce qu'on appelle une discrimination. Et donc aujourd'hui, en faisant des formations, en apprenant aux gens ce qu'est une discrimination, et le fait de ne pas le faire, on arrive à une société qui soit égalitaire, où en fin de compte, un homme, une femme sont sur le même piédestal. Ou une personne de couleur par rapport à une autre est sur le même piédestal. Une personne de religion différente est sur le même piédestal. Voilà. Il faut arrêter de faire toujours cet écart de discrimination entre deux personnes parce qu'elles sont différentes. Suite à l'obtention du mariage en 2013, il y a d'autres choses qui sont avancées, à savoir que 2016, on commence à évoluer sur le don du sang. Don du sang, c'est encore une grosse difficulté à ce moment-là parce qu'il y a eu le problème d'infection par rapport au sida dans les années 80. Donc le fait d'avoir beaucoup d'incidence là-dessus, des gens qui sont contaminés, qui meurent, et on a évité que les personnes homosexuelles donnent leur sang. Il a fallu attendre 2016 avec une loi qui arrive pour que les gens puissent avoir un an d'abstinence pour pouvoir donner leur sang. À partir de 2019, on passe à 4 mois. Et là, le mois prochain, enfin, les homosexuels pourront donner leur sang, non pas parce qu'ils sont différents, parce qu'on parlait toujours de différence, d'homosexualité, mais parce que surtout, on parle de pratiques à risque. Parce qu'il y a beaucoup de personnes hétérosexuelles qui ont aussi des pratiques à risque, et on n'en parle pas de ça. Mais le plus important, c'est éviter les pratiques à risque des personnes sur la sexualité, pour éviter de contaminer les autres. 2016, c'est aussi la loi sur les thanatopracteurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le thanatopractage. C'est les soins funéraires pour les personnes qui décèdent. À savoir qu'il y a deux types de thanatopracteurs, les maisons funéraires et l'hôpital. L'hôpital, ils ont des équipements de protection individuelle qui leur permettent de les protéger quand ils font des soins, donc le lavage. Ça permet aussi de préparer le corps pour le montrer quand la personne est décédée devant la famille. Et après, il y a les pompes funèbres qui font le même travail. Si une personne décède à l'hôpital, c'est l'hôpital qui fait les soins. Si une personne décède chez elle, c'est les maisons funéraires qui font les soins. À savoir qu'en jusqu'en 2016, les maisons funéraires ne faisaient pas les soins pour les personnes décédant du VIH. Ils avaient peur d'avoir le sida, ils avaient peur d'être contaminés, à savoir que le corps, une fois qu'on n'a plus d'oxygène dans le corps, le cerveau est mort. Si le cerveau est mort, il n'y a plus d'irrigation au niveau du cœur, le cœur ne fonctionne plus. Il n'y a toujours plus cet échange d'oxygène dans le corps, donc les cellules rouges, donc tous les globules qui sont véhiculés, meurent aussi. Toutes les cellules meurent. Donc les virus meurent aussi. Donc ça veut dire qu'on peut faire des soins pour les personnes sans attraper quelque chose. Mais il y avait toujours cette peur, cette crainte. Ça fait qu'ils se sont servis de ça pour ne pas faire les soins des personnes. Ça veut dire qu'une personne qui décédait chez elle, on le mettait dans son cercueil, on fermait ce cercueil, on ne faisait pas les soins, et les gens se retrouvaient devant un cercueil, pas devant une personne. Et c'était très violent pour les familles. 2016, on a aussi la loi sur le changement d'état civil pour les personnes transgenres, à savoir qu'avant, il fallait absolument que les personnes trans passent devant un psychiatre, se fassent opérer, et je ne sais combien de certificats médicaux de l'État et ainsi de suite et tout pour faire des changements qui dataient et qui duraient dans le temps, alors que là, c'était une simplification des démarches. Être une personne trans, ce n'est pas obligé d'être opéré complètement. Ça peut être déjà dans une transition psychologique. Alors, je fais très attention quand je dis psychologique, ça veut dire qu'on a déjà travaillé sur qui on est et vers où on va. Ça veut dire qu'on peut se sentir trans sans avoir été obligé de changer de sexe directement. On n'est pas obligé toujours de subir une transition. Il y a des personnes qui vont faire leur transition totale, il y a des personnes qui vont commencer une transition, il y en a d'autres qui vont s'arrêter en plein milieu de leur parcours. Donc là, le but, c'est de reconnaître les personnes transgenres, de reconnaître au niveau de la société et pouvoir les inclure dans une société par un pronom d'usage, comme on parlait tout à l'heure par rapport au collège et au lycée, quand les jeunes sont présents et présentes, de pouvoir avoir des lieux dédiés, comme pour aller au sport, prendre sa douche, être à part, parce qu'on sait très bien que quand son corps change, on a un peu cette pudeur de se montrer, pour les toilettes et ainsi de suite et tout. Voilà, tout ce travail-là a été mis en place. 2021, la procréation médicalement assistée, la PMA, arrive pour toutes les femmes. Ça veut dire qu'une femme qui souhaite avoir un enfant peut passer par une PMA. C'est reconnu, a été accepté et validé. Donc on met fin à une discrimination derrière pour les femmes. 2022, on a eu la loi sur les thérapies de conversion. Une thérapie de conversion, c'est des gens, au nom de la religion, qui interdisent des personnes d'être différentes et veulent les faire changer. Ça veut dire qu'un jeune ou une jeune peut être dans une salle pendant 10 heures à entendre « t'es anormal, t'es anormal, t'es anormal, je suis là pour te faire changer, tu vas changer parce que t'es hétérosexuel, t'es pas homosexuel ». C'est ce qu'on appelle les thérapies de conversion. C'est empêcher la personne d'être soi-même. Et ça, enfin, on a aussi à ce qu'en France, ces lois-là n'existent plus et que les personnes puissent être réellement qui elles sont. Et la dernière loi qui arrive, on parlait du don du sang, à partir du mois de mars, donc le don du sang sera ouvert à toutes les personnes. Et ça, c'est une grosse avancée.